Vous écoutez Mission Vision avec Julie Châtelain.
Et maintenant, j'ai en studio Mélanie Côté, mais on va aller rejoindre Annie Perrault, psychologue, pour parler d'hypervigilance. Allô, Annie.
Bonjour, Julie.
Comment vas-tu?
Oh, très, très bien, merci. J'espère que vous allez bien de votre côté.
Ben moi, je vais très bien. Mélanie, comment vas-tu?
Je vais très bien, formidablement bien. Je suis à Montréal aujourd'hui.
Wow. Bien sûr, à Montréal, en studio. Annie, on va parler d'hypervigilance parce que lors de la dernière chronique, c'est comme si c'est venu naturellement sur dans la discussion. Et là, j'ai dit tout de suite, oh, ça ferait vraiment un beau sujet pour une prochaine chronique.
Ouais.
Parce que je trouve que on parlait du traumatisme et de là est venue l'hypervigilance et que je disais que les personnes en situation de handicap visuel sont constamment en hypervigilance, là. Ah ben, je dis constamment. En tout cas, moi, de mon vécu, je suis plus souvent en hypervigilance que pas en hypervigilance.
Sauf quand on dort, on n'est pas en hypervigilance.
Ben, c'est ça. Ce qui veut dire que dans une journée... Il y a beaucoup de moments où est-ce qu'on est en hypervigilance, ne serait-ce que juste même quand je coupe un légume, puis que là, j'ai coupé, puis pouf, il y a quelque chose qui a revolé, puis là, je fais « oh non, OK, il y a des petits bouts un peu partout. » Tu sais, il y a naturellement un sentiment d'hypervigilance.
OK. Alors, on va essayer de décrire ce que c'est d'abord.
Oui.
L'hypervigilance, là, c'est un symptôme, un peu comme la fièvre pour la grippe. Mm-hmm. Ça indique quelque chose. C'est un mécanisme de survie qui est commandé par le cerveau pour nous protéger d'éventuels dangers.
Oui.
Donc, l'hypervigilance, ça va être vraiment un symptôme qu'on va retrouver dans des conditions bien spécifiques, comme un stress post-traumatique,
oui,
une anxiété, trouble panique, chez la dépression, chez certaines personnes avec des traits de personnalité. Il y a des fois des conditions dégénératives comme des démences, mais aussi des troubles de santé qui vont générer une forme d'hypervigilance parce que c'est un trouble endocrinien, par exemple, la thyroïde.
Oui, oui.
Donc, être en vigilance, en état de vigilance, je surveille mon environnement, puis d'être en hypervigilance, ça va être vraiment... C'est comme si on pouvait mettre une petite fièvre puis une grosse fièvre.
Une petite fièvre puis une grosse fièvre.
Ouais, c'est ça. Donc, parce qu'avec ça, vient plein d'autres symptômes qui vont venir.
Oui.
Puis je donne l'exemple, par exemple, quelqu'un en hypervigilance, typiquement, il va avoir vécu des situations qui vont s'accumuler puis qui vont faire que l'organisme a un système nerveux en surproduction, en surprotection.
Mm-hmm.
Donc, on va être fixé d'une façon extrêmement importante sur notre environnement, sur nos pensées, nos sentiments par rapport aux autres ou encore sur notre propre corps ou notre esprit.
OK.
Alors, donc, là, lorsqu'il nous manque un sens, c'est sûr que là, il y a quelque chose qui fait qu'on doit porter plus attention à notre environnement.
Mm-hmm.
Puis c'est possible que, effectivement, à cause de l'accumulation des situations dangereuses ou potentiellement dangereuses, bien, on va devenir plus vigilant.
Donc, ça veut dire que finalement, comme tu dis, c'est vraiment cette accumulation-là d'événements qui amène un stress et que là, on dirait que c'est le corps qui garde comme une trace de ça et naturellement, il revient plus en hypervigilance.
Il va être plus à la recherche des signaux de danger, puis même à les anticiper d'avance, alors qu'il n'y en a peut-être pas.
Ah,
donc, ça va générer aussi un mécanisme qui peut être de l'évitement ou de l'insécurité, qui rend en fait la détente difficile à atteindre.
Mm-hmm.
Notre système nerveux devient en mode surveillance accrue,
oui,
réaction hyper rapide.
Donc, mais de là, quand tu dis l'évitement, ben dans le fond, c'est comme si on s'empêche de vivre des situations, puis c'est ça qui fait que tout d'un coup, on a un apaisement, mais dans le fond, c'est parce qu'on évite d'y aller.
Oui, on évite. Puis même, ça peut amener à des troubles dans les relations, par exemple. Je vais mentir pour ne pas aller à tel endroit parce que je crains des choses.
Ben oui, OK.
Ça peut amener une méfiance envers certaines personnes.
Ouais.
Ça peut amener, par exemple, encore une autre chose, ça va être un besoin d'être rassuré constamment. Fait, au niveau relationnel, ça peut créer des impacts. Jouer. C'est pas banal.
Non, c'est ça, c'est ça. Toi, Mélanie, quand t'entends ça, hypervigilance, est-ce que ça te parle?
Ben moi, ça me parle de plus en plus parce que j'ai une perte visuelle là, depuis un bon 2 ans de plus.
Mm-hmm.
Donc, tu sais, c'est de s'empêcher d'aller marcher parce qu'il va peut-être avoir de la glace.
Ouais.
C'est de dire non à des amis qui veulent aller à quelque part. Mais ça va être trop compliqué, il va y avoir trop de monde. Donc,
ouais.
À un moment donné, une forme d'isolement, je pense, qui peut se créer. Fait que
ben,
je suis d'accord avec ce qu'elle dit.
Oui, puis ce que tu dis, c'est exactement ça, de l'évitement, parce que moi, je sais que c'est quelque chose que je fais aussi, de l'évitement, tu sais, de dire « Ah non, je vais pas sortir dehors, là. Je le sais que là, ça va être glacé, ça me tente pas de gérer ça. » Mais là, je vais m'éviter une hypervigilance, parce que je sais que si je sors dehors, je vais être vraiment en hypervigilance parce que là, chaque pas mélangé avec la canne, tout ça, c'est un enjeu. Mais il y a des fois que je me dis non, c'est pas vrai. Tu sais, comme là, c'est important, je m'en viens à la radio. C'est comme j'ai pas le choix. Tu sais, on dirait que le cerveau, il s'en va dans une zone de j'ai pas le choix, fait que je ne peux pas éviter. Mais je le sais que pendant mon trajet, je suis en hypervigilance.
C'est plus, ouais, exactement.
À plein de moments, je suis capable de sentir parce que j'ai quelque chose qui me remonte au niveau... c'est comme ça fait une petite pression au niveau du plexus. Quand il y a comme une petite situation où tu sais, un auto qui te coupe ou tu te dis « Ah, pourquoi elle était rouge? Il peut pas avancer. » Mais il avance ou... Tu sais, ces situations-là, fait que là, on dirait que tu en accumules à peu près 45 dans un trajet...
Ouais.
Ça fait que moi, naturellement, je me sens un peu comme si j'avais pris 4 cafés de plus.
On a comme un petit baromètre, je pense, aussi d'énergie.
Oui.
Tous les matins, on se lève. OK, c'est quoi mon baromètre d'énergie aujourd'hui?
Ouais.
Puis dans quoi je vais investir? Tu sais, je vais-tu choisir de faire telle ou telle chose? Mais je pense qu'on en élague aussi beaucoup avec une perte visuelle.
Oui, complètement. Puis c'est ça, c'est pour ça que je trouvais ça important de l'hypervigilance parce que même... Quand je faisais mon training à l'Institut Nazareth et Louis Braille, c'est ça qui m'expliquait.
Mm-hmm.
Il y a un moment donné, une situation où est-ce que... ça fait pas si longtemps là, que j'ai un handicap visuel avec la... Ben oui, mais que je suis rendue avec la canne blanche, ça fait pas encore si longtemps. Et à un moment donné, la canne est tombée dans un trou. C'est comme si la canne, elle a vraiment... descendu de 8 étages et je me suis rendu compte que, tu sais, tout de suite, je me suis dit, ça y est, je le sais, il y a un cratère, il y a un trou, il y a une crevasse, il y a, tu sais, fait qu'on dirait que j'ai tout de suite paniqué et à Louis Braille, il me disait juste, non mais Julie, tu sais ce que tu aurais pu faire aussi, c'est juste arrêter, prendre 5 secondes pour respirer. Puis là, j'ai dit... Oh mon Dieu, mais je respecte tellement pas parce que quand je me retrouve dans une situation comme ça, je dois gérer là. Alors là, tout de suite, OK, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je fais? OK, c'est-tu correct? Puis après ça, je repars mon chemin là. De s'arrêter juste de dire, hey, wow, là, tu viens de vivre quelque chose là.
Il doit avoir des petits trucs pour aider au quotidien, de nous aider au niveau de l'hypervigilance. Il doit avoir des moyens.
Effectivement, là, c'est de comprendre comment. Parfois, l'hypervigilance amène des confirmations. Tu vois, j'avais raison, c'était dangereux, par exemple. Puis là, il faut déjouer cette confirmation-là qui s'est accumulée, puis ramener dans notre existence le fait qu'il y a plusieurs fois où ça s'est bien passé, mais on les oublie plus.
Oui, ben oui.
Une chose.
Oui.
Donc, c'est ça, on a des biais cognitifs qu'on dit, ben, tu vois, j'avais raison, tu vois, c'est encore vrai, etc. Donc, le fait de s'arrêter, de respirer, de se réorienter, prendre soin de l'environnement, puis dire, OK, t'as peu, qu'est-ce qui se passe là? On rétablit la réalité.
Oui.
Puis oui, des fois, la réalité est dangereuse. Des fois, oui, ça nous arrive. Mais elle est probablement moins que ce que notre corps nous fait croire quand on est en état d'hypervigilance. Mais reste que la vigilance dans la situation où il y a une perte de vision, elle est nécessaire, comme si c'était une perte d'ouïe aussi. Là. Donc, il y a une vigilance qui demeure nécessaire, mais comment ne pas être envahi par cet état-là qui se déclenche de façon extrêmement rapide, au quart de tour, Mais ben, c'est là que vous avez parlé de calcul d'énergie. C'est extrêmement important parce que le choix de faire, est-ce qu'aujourd'hui je fais telle activité, est-ce que j'ai les ressources pour le faire comparativement à une journée où j'ai vraiment pas les ressources? Et oui, l'évitement, en guillemets, va être nécessaire et très relié à notre état. Donc, là, à ce moment-là, c'est positif de prendre soin de notre niveau d'énergie.
Il faut rester à l'écoute, donc, je pense, par contre, parce que sinon, on bascule dans un état où, justement, on fait moins de choses, où on évite vraiment à l'extrême. Fait qu'il faut toujours... En tout cas, j'aime pas tellement le mot toujours, mais il faut souvent se regarder puis s'observer, je pense.
Oui, vraiment.
C'est comme si c'est une prise de risque qui devient plus calculée, mais ajustée. On va le dire comme ça. Ça doit être ajusté pour dire il y a des jours où c'est mieux pour moi puis des jours où c'est moins bon. Mais si je fais que éviter et croire en mon hypervigilance, je me coupe du monde.
Oui, mais c'est ça, c'est parce que, dans le fond, du moment qu'il y a l'handicap visuel, on le sait qu'il va avoir une vigilance plus importante pour compenser. Mais si, exemple, pendant la situation en elle-même, là, j'ai pas réussi à me calmer, là, parce que, pour vrai, j'ai eu peur. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire là, à ce moment-là? Parce que ça va arriver des situations où est-ce que, comme tu dis, Annie, il y a un danger pour vrai de vrai. Là. Donc,
pour vrai de vrai.
J'ai vraiment une situation, j'ai un danger. Mais là, après ça, là, moi, là, je l'ai ressenti dans mon corps. Là, il faut que je compense après ça.
Oui, ça ne se désactive pas dans un clin d'œil.
Non, c'est ça.
Il faut vraiment laisser le temps au corps d'apaiser la décharge d'adrénaline. Mais aussi, il faut aider notre corps à cette décharge-là, qu'elle puisse se métaboliser. OK, oh wow, j'ai vraiment eu peur.
Oui.
Le cœur me débat.
Oui.
J'ai toutes sortes de pensées dans ma tête. Mais là, sur quoi je peux me raccrocher pour dire c'est correct? Est-ce que là, c'est correct? Bon, OK, je vais prendre mon souffle, ça va passer.
Oui.
Mais donc, il y a vraiment cette période-là qui peut durer. Là, le temps que ça se métabolise dans notre corps, ça prend pas mal plus que 2 minutes.
Ça peut être long, là.
Oui, ça peut prendre un certain temps.
Oui, c'est ça. Puis est-ce que justement, probablement, que c'est super positif de le sortir un peu de son système, tu sais, de dire, hey, j'ai vraiment eu peur, là, tu sais. J'avais raison d'avoir peur parce que ça, cette situation-là, c'était dangereux.
Quand ça l'est, oui.
Quand ça l'est, c'est ça exactement. Tu sais, comme de le sortir de son système, là, tu sais, de dire, hey, j'ai eu peur, là.
Effectivement, j'ai eu peur, puis cette peur-là m'a fait toutes sortes de sensations. C'est des sensations qui étaient fort utiles pour me dire qu'il y avait le danger. OK, là, c'est terminé. OK, je reprends mes esprits, je me donne du temps, puis on sait que c'est extrêmement fatigant d'avoir une décharge d'adrénaline de peur. Ça nous épuise, hein? Ça prend beaucoup d'énergie dans notre corps.
Donc, ça se peut que parce que j'ai eu une situation où est-ce que j'ai vécu vraiment une situation d'adrénaline intense, qu'après ça, comme Mélanie a dit, au niveau de sa batterie d'énergie, ça se pourrait qu'elle dise, tu sais, exemple, elle s'était planifiée plein de choses dans la journée, mais que finalement, j'ai plus d'énergie, j'ai plus de gaz, là. Je veux juste comme...
J'ai besoin de récupérer.
Oui, c'est ça, c'est ça.
Effectivement.
Mais comment qu'on fait pour faire la différence entre j'ai trop hyper...
Réagi.
Et que là, tout d'un coup, parce que j'ai trop hyper réagi, je ne suis plus capable de rien faire du reste de ma journée. Là. Tu sais, comment qu'on fait pour dire non, t'as peu, là, ça, c'était pas...
Réajuster.
C'était pas réaliste, là, ça. Là.
Oui. C'est là que c'est vraiment, individuel à chacun, hein, parce que notre réserve d'énergie n'est pas pareille d'une situation à l'autre, d'une journée à l'autre. Puis, il faudra prendre soin comme ce qui a le besoin là.
Est-ce que c'est important, comme quand on tombe en vélo, de rembarquer ou quand on a un accident d'auto? Est-ce que c'est important de ressortir comme rapidement? Est-ce qu'il y a une norme là-dessus? Est-ce qu'il y a des études?
Je dirais plutôt que ce qui est important, c'est de récupérer notre pouvoir dans une situation qui a été effrayante pour nous, avec des bonnes conditions. Okay. Donc, de rembarquer sur le vélo, en plein autoroute métropolitaine, très mauvaise idée.
Ça peut, c'est ça, là, être pas une bonne idée de rembarquer tout de suite.
tout de suite, mais dans des conditions. On pourrait tout de suite, mais si on a des bonnes conditions.
OK.
Bien, moi, j'ai vécu une situation de vélo avant, quand j'étais capable de faire du vélo. Il y a un moment donné, je suis sur une piste cyclable et il y a une voiture, dans le fond, elle recule dans son entrée. Ouais. Moi, là, ces affaires. Moi, quand je marche, je sais que je suis en hypervigilance. Quand je vois comme une voiture, là, des lumières rouges, tu sais, là, tu le sais, elle va reculer. Elle est prête, là. Elle y va, là. Ouais. Oh mon Dieu, j'ai ça.
Ouais.
Et ouais. Là, je me rappelle, j'étais en vélo et la personne, ben, est venue me rentrer dedans directement.
Oui. Oui.
Et après ça, je me suis vraiment dit, faut que je rembarque sur mon vélo. Mais j'étais pas capable. Puis pour vrai, j'étais pas capable. J'étais en petite boule sur le gazon à côté, je braillais. Là, et je me suis dit, je pense que là, c'est pas le moment que je rembarque. Ce que j'ai fait, par contre, c'est que j'ai marché à côté de mon vélo.
À côté du vélo. Et oui, voilà.
Là, on dirait que je me sentais plus en sécurité. Mais je me suis quand même dit, attends pas 4 mois avant de rembarquer parce que tu rembarqueras plus.
Mmh.
Fait que je savais que je devais rembarquer rapidement parce que moi, de mon tempérament, j'aurais pu ne plus jamais embarquer.
Mmh. Ça pourrait. Des fois, il faut éviter l'idée que si je ne le fais pas tout de suite, ça va être fini pour toujours.
Oui, c'est
ça.
C'est
une idée.
C'est une
croyance. Mais qui on peut défaire parce qu'on va se donner des bonnes conditions.
Oui.
Alors, c'est vraiment du cas par cas, hein, de faire face à nos situations qui ont été intenses, tout dépendant de notre niveau d'énergie disponible, des conditions dans lesquelles on veut se désensibiliser ou faire face à la situation qui a été intense. Donc, c'est vraiment du cas par cas. Puis, il y a des fois des situations qui sont plus on n'est pas capable d'affronter pour toutes sortes de raisons, parce qu'ils sont très, très, très intenses.
Oui, oui.
Alors, ça prend vraiment plus de l'aide professionnelle à ce moment-là.
Ah, oh, absolument. Mais justement, de l'aide professionnelle, toi, tu es psychologue. C'est à quel endroit qu'on peut te retrouver, Annie?
Bien, moi, je suis dans la région de la Naudière, mais on peut me retrouver à travers le web là, sans problème.
Annie Perrault.
Oui.
Psychologue. Parfait. Bien, merci beaucoup, Annie. Ça a été un plaisir, comme à chaque fois.
Merci à vous.
Merci.
Merci. Bonne journée.
Bonne journée. Bye bye.
Bye.
Et on continue avec Mélanie. Et j'ai trouvé ça tellement intéressant. Puis je voulais justement t'entendre parce que, ben toi aussi, Mélanie, tu sais, là, t'es débarquée de Granby ce matin. Donc, tu sais, déjà, je me dis, c'est sûr qu'elle a des situations, des fois, d'hypervigilance. Et j'étais super contente de dire, hey, même si on parle de bonheur, parce que ta chronique, c'est vraiment ça, on parle de la joie de vivre et tout ça, mais qu'à travers ça, ben oui, il y a de l'hypervigilance. Et c'est parce que moi, souvent, je me retrouve un peu à me dire, coudon, je suis la seule que plus je vieillis, plus je suis handicapée, là, dans le sens, plus ça progresse, plus je suis en hypervigilance, plus on dirait mon système est moins tolérant que il y a 10 ans. Fait que c'est pour ça, fait que là, on dirait, je me dis, ben garde, toi aussi, hein, tu peux voyager, tu peux être dans la joie de vivre, mais aussi avoir de l'hypervigilance et qu'il y a des moments, comme tu dis, que tu fais de l'évitement aussi, tout simplement, là.
Oui, puis c'est normal aussi, parce que même si on fait le bonheur, la minute du bonheur, de la bonne humeur, ben on vit quotidiennement plein de choses aussi.
T'sais,
tout n'est pas tout le temps rose, puis tout n'est pas tout le temps noir.
Non,
c'est justement encore de varier au niveau du barème.
C'est
comment on peut jauger, parce que, tu sais, dernièrement, j'ai eu une période un petit peu plus basse, là, puis, OK, c'est d'accepter, c'est de prendre de l'air, c'est de pas vouloir sortir aussi, puis de respecter ça. Fait que, mais je suis sortie, Julie, voilà 2-3 semaines, à l'œil de Granby, qui est un organisme, et aujourd'hui, ben je l'ai intégré un petit peu dans le bonheur de la bonne humeur, parce que c'était tellement formateur.
Oh.
Je suis allée faire du yoga avec des personnes malvoyante. C'était vraiment hyper intéressant parce que, oui, j'ai triché un peu. J'ai regardé, j'ai pas tout fermé mes yeux tout le long du yoga.
Parce que sinon, c'est quoi? C'est vraiment tout le monde a une cécité finalement?
Oui, bien, pas nécessairement parce que j'ai parlé après le yoga qu'on a fait une heure de temps avec Caroline, Judith puis Normand. Puis Caroline, elle voit un petit peu. Puis c'est ce qu'elle a nommé. Elle dit, bien, moi, des fois, on dirait que j'avais le goût de regarder. Ah. Là, mais elle dit, là, le professeur, il m'a dit, bien, tu ressens plus lorsque tu fermes tes yeux. Ouais. Mais elle dit, on est habitué, tu sais, quand on n'a pas totalement perdu la vue, c'est sûr que notre vision, on est toujours en train de regarder ce qui se passe. Fait qu'elle a apprivoisé ça, puis j'ai vraiment beaucoup aimé ça, parler avec elle par rapport à ça.
Mais tu vois, c'est intéressant parce que moi-même, je me suis challengée avec ça parce que je fais du yoga et puis je fais avec mes lunettes. Mm. Parce que ce que je vois, je veux le voir.
Ouais.
Mais finalement, j'ai commencé à faire du yoga pas de lunettes.
Oh oui.
Et moi, pas de lunettes, je suis aveugle.
Ouais.
C'est pas vrai, là. Je veux dire, les peu de taches que je vois, c'est des couleurs. T'sais, c'est comme une belle toile de couleurs, mais je ne peux rien... tu sais, quelqu'un devant moi, je le vois même pas, là.
Mais c'est parfait parce que mais moi aussi, je fais du yoga.
Intéressant.
C'est beaucoup mieux en regardant pas.
Mon Dieu, mais c'est tellement... Moi, je me suis rendu compte qu'il y a rien qui me fait déconnecter plus que ça parce que je peux juste être concentrée sur... Lève le bras gauche. Oui.
Puis ton intérieur à toi aussi. Qu'est-ce que tu ressens?
Ouais.
On est beaucoup plus connectés.
Complètement.
Puis Judith, elle disait aussi après notre petite rencontre, elle dit, on dirait que je suis plus consciente de mon corps.
Ah oui.
Puis, tu sais, des fois, moi, je vais au yoga aussi, puis si on a une bonne enseignante ou un enseignant de yoga, on n'a pas besoin de regarder.
Non.
S'il nomme bien les choses, puis moi, je sais pas, là, j'ai pas fait une enquête, mais je dois être une des seules qui voit pas très bien.
Moi, je suis la seule.
Mais pas au yoga à l'œil. Moi, je fais du yoga ailleurs.
Oui,
mais
c'est ça.
Moi, je ferme mes yeux, puis des fois, mon conjoint, il me dit, on a fait l'arbre, puis telle personne avait de la misère. Puis moi, je regarde pas ça, là.
Non.
Je suis centrée de, OK, ben moi, je suis capable de le faire aujourd'hui
ou
pas capable. Donc, ça crée une certaine intériorité qui est vraiment hyper intéressante.
Et c'est intéressant quand tu parles du professeur, parce que moi, quand j'ai commencé, je suis vraiment allée la voir, puis j'ai vraiment dit, elle s'appelle Avril, puis dans mon horaire, c'est souvent elle que ça marchait, puis à un moment donné... On a vraiment fait comme un partnership, là. On est devenu là, vraiment... Parce que même elle voyait qu'au fur et à mesure, elle s'améliorait dans ses explications. Mm-hmm. Et c'était rendu qu'elle était en mesure aussi de savoir à quelle distance elle devait se mettre de moi quand j'étais complètement dans le champ.
Ah.
Parce qu'il y a des fois, pour vrai, que... Puis elle était très beaucoup... contorsionniste.
OK.
Hein? Des fois...
Lève la jambe de droite, puis met la main gauche à terre.
Tiens, genre de twister, là. Et tu sais que, puis à un moment donné, tu te rends compte que tout le monde est rendu de l'autre côté du tapis, et moi, je suis pas encore de ce bord-là. Mm. J'ai pas compris. Et là, c'est ça. Elle vient se mettre vraiment à peu près à un bras de distance. Elle prend ma main, elle se la met sur la cuisse. Tu sais, puis là, on dirait que j'arrive à...
comprendre.
Puis là, je suis capable de le faire. Mais quand je fais ça, j'ai aucun moment où est-ce que j'ai le temps de me dire « Oh mon Dieu, t'es donc bien dans le champ, t'es pas dans la bonne position. » Puis elle m'a même dit « Des fois, t'inventes des positions.
Ben, » c'est parfait. L'important, c'est que tu bouges.
Mais moi,
que
je bouge et je me sens
ça,
bien pendant ce temps-là.
Mais tu sais, le professeur là-bas, Jean-François, lui, c'était... magique, là. J'ai vraiment beaucoup aimé ça, vivre cette expérience-là, parce que lui, il voit, évidemment, mais parfois, il fait les yeux fermés, puis il est capable de, s'il voit qu'il y a deux, trois personnes qui ont mal compris, ben là, il redit sa consigne, puis c'est ça, on se faisait des petits sourires des fois, parce que moi, je voulais le faire, mais je voulais aussi regarder.
Aussi.
Fait que, c'était vraiment... puis moi, ce qui m'a le plus impressionné, c'est la méditation à la fin.
Et c'est ça que j'allais dire.
Il leur a fait faire une... Moi, je me disais, hey, ça marchera.
Mais, oui.
Mais non, ils ont embarqué, puis ils ont dit que par la suite, quand on s'est jasé, c'est que ça leur amène une certaine, on parlait d'hypervigilance, mais oui, mais là, si on veut faire un lien.
Un
là,
apaisement.
Voilà, mais ça oui. leur amène un mais apaisement oui. dans le mouvement, dans mm-hmm. la conscience. Puis il y a même Normand qui me dit, moi, quand je suis au gym, maintenant, je me tiens la tête au ciel et le dos droit. Mm-hmm. Il dit, quand je suis en attente d'une machine,
oui.
il dit, on dirait que il les notions conscience. De yoga, oui, oui, reviennent au quotidien. Oui.
Puis tu vois, moi, c'est ça, le yoga, c'est vraiment... Tu sais, puis je le vois, là. Je rentre, je suis en hypervigilance, je fais le cours, je suis plus en hypervigilance. Puis après ça, je repars, puis je suis moins en hypervigilance.
Ça l'apaise. Je pense que ça, notre système nerveux, il est sur l'adrénaline tout le temps.
Complètement.
Là.
Puis un peu comme tu dis que la méditation, puis souvent, c'est ce qu'on dit, la méditation, là. Les gens, là, font ça les yeux fermés, là.
Oui.
Tu sais, fait que d'emblée, on nous amène vers cette intériorité-là, mais c'est comme si, quand on a l'handicap visuel, bien là, nous, on est confrontés à... On peut pas ouvrir nos yeux et avoir tout d'un coup une vision parfaite comme des personnes qui voient bien. Mais je trouve tellement qu'il y a un enseignement précieux dans... Tu sais, que nous, en situation d'handicap, on peut même transmettre aux gens qui voient, tu sais, de les amener encore plus à aller vers leur intérieur profondément, là, tu sais, pas juste 5 minutes parce que t'as fermé tes yeux, tu sais. Mais moi, mon idéal, c'est ça, ça serait de pouvoir être dans cet état-là le plus longtemps possible, ouais, dans une journée, parce que moi, je sais que je grimpe vite.
Oh oui.
J'ai des réflexes.
On est à côté.
Oh oui, puis j'ai des réflexes, là. Moi, souvent, le monde font comme, mais voyons, mais j'ai des réflexes. J'échappe quelque chose, je suis comme Spider-Man, je le ramasse, je le vois même pas, je sais pas comment j'ai fait. Je l'ai ramassé, je le sais, j'ai vraiment ça. Ça fait que oui, je suis excellente pour gérer des situations de crise. C'est pour ça que j'étais très bonne
intervenante. Sauf que t'es tout le temps en crise dans ta tête.
Mais
aussi,
je suis tout le temps en crise dans ma tête et dans mon corps.
Je te comprends tellement, oui, parce que moi, le prochain, on va se parler parce que je vais à Vipassana, là. Fait que c'est un choix de 10 jours de méditation.
Mais
le yoga embarque là-dedans. Là,
oui, mais ça, tu vas te challenger, là, parce que là, c'est un 10 jours.
Oui, 10 heures de méditation par jour.
Ça, et ça, je vais vraiment être curieuse d'entendre parce que j'y connais plusieurs personnes qui l'ont fait, pas en lien avec l'handicap visuel, mais à un moment donné, j'en connais qui ont quitté après 2 heures et j'en connais qui l'ont poursuivi et j'en connais qui ont vécu des trucs de transcendance. En tout cas, on a vraiment
hâte. On va
avoir
bien des choses à se dire. Mais faites du yoga, ça fait du bien pour la bonne humeur.
Oui, absolument.
Merci, Julie.
Merci beaucoup, Mélanie. Et je remercie mes invités, Denise Baudry et Annie Perrault. Et nous, bien, on va se retrouver pour une autre belle émission la semaine prochaine. Merci, Mathieu, à la mise en onde. Bye-bye, tout le monde.